l'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Guillaume Dandelot, le directeur du Centre européen du résistant déporté, Struthof, c'est à Natzwiller, à propos des rencontres sur le thème foi et déportation. C'est les 16 et 17 mars prochains à Strasbourg. Un colloque qui réunira une dizaine d'intervenants, auteurs, historiens, théologiens autour de tables rondes et conférences autour de trois thématiques, le nazisme et les religions, la foi et sa pratique dans les camps et spiritualité et déportation. Tout un programme. Guillaume Dandelot, bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, les rencontres se feront à la région Grand Est, donc au siège ici à Strasbourg, qui est partenaire de cet événement. Alors vous êtes l'instigateur de ce colloque. Pour quelle raison ce thème qui ne trouvera certainement jamais de réponse?
Parce que je pense que c'est une thématique qui est d'abord peu abordée par les historiens, peut-être qu'ils s'en méfient. Et également, en fait, c'est aussi une opportunité qui s'est présentée à nous, puisque en 2018-2019 avait été envisagée et programmée d'ailleurs une exposition temporaire au CERD, au Centre européen du résistant déporté, sur la déportation des témoins de Jéhovah. Cette exposition, à cause du Covid, a été annulée, mais on avait déjà à l'époque envisagé d'élargir ce sujet à finalement les différentes confessions qui se sont trouvées présentes dans les camps de déportation et de voir comment effectivement cette pratique avait pu se développer et comment avait été reçu finalement le message de Dieu. Est-ce que ce message s'était arrêté, comme l'ont dit certains, à la porte des camps, ou au contraire, est-ce que ce message a été une force, une aide pour un certain nombre de déportés?
Est-ce que vous avez retrouvé des traces de personnes qui ont séjourné, qui ont été déportées dans le camp du Struthof, de ces signes religieux? Alors, et pas uniquement, on le disait, de confession juive?
Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, d'abord au Struthof, effectivement, ils étaient plutôt de confession chrétienne. Il y a eu un certain nombre de gestes, un certain nombre d'éléments de Bible qui ont été réussis à rentrer dans le camp, puisque ces ouvrages étaient interdits, et de pratiques individuelles et collectives qui ont été retracées par un certain nombre de déportés. Ce dont on s'aperçoit, c'est souvent ces traces sont quelquefois un peu éparpillées dans des témoignages beaucoup plus globaux, peut-être aussi parce que c'est quelque chose d'assez intime, et donc pas forcément facile d'en parler. Mais il y a eu notamment deux ou trois prêtres qui ont été au Struthof, un évêque, le seul évêque français qui a été déporté, Monseigneur Piguet, qui après a été à Dachau, et puis des témoignages effectivement, notamment par exemple de Pierre Rollinet, qui est décédé l'année dernière, un protestant, et qui disait je disais mon Notre Père tous les jours, et quelquefois j'étais tellement fatigué que je n'arrivais même plus à m'en souvenir. Ou bien il disait également, écoutez, je priais pour que Dieu m'inspire des gestes de prudence, parce que chaque pas finalement est un risque de mort dans un camp de déportation. Donc ces éléments-là, on les a rassemblés, mais on a essayé surtout de les élargir aux différents lieux de déportation, que ce soit des centres de mise à mort ou bien des camps de concentration, et de voir comment tout ça s'était organisé. Et c'est très riche, en fait, parce que ça parle d'abord de l'homme. Et je crois que c'est important, l'histoire, les grandes dates, les masses, etc. C'est une chose, mais je crois que ça rentre directement sur l'homme. Et ça aussi nous interpelle, finalement, parce qu'ils sont dans un ensemble très contraint, et c'est peut-être facile, dans une conversation que je vais qualifier de salon, de dire « moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça ». Là, effectivement, ils se posent des questions qui, quelquefois, même peuvent nous paraître un peu irréalistes. Ils ont des questionnements, par exemple, certains, évidemment, ce sont des cas individuels, sur le fait de jeûner ou pas, alors qu'ils sont déjà complètement sous-alimentés. Donc, tous ces éléments-là. Et je crois que ces journées seront effectivement un temps où on pourra approfondir, essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis, ce qu'on a voulu aussi faire, c'est de le transformer en ce qu'on a appelé une boîte à outils pour les enseignants, puisque nous avons la chance d'être en Alsace-Moselle, en région concordataire. Donc, il y a des enseignements sur cette thématique-là. Et c'est un moyen, effectivement, de prolonger aussi ces journées par un outil qui pourra être mis au service des enseignants et servir peut-être aussi de pont entre les historiens et les enseignants d'enseignement religieux.
La foi en déportation, j'allais dire pas et déportation, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'entendable aujourd'hui quand il y a des témoignages. Et effectivement, c'est quelque chose de très clivant entre les gens qui témoignent encore aujourd'hui et qui disent que, évidemment, non, il n'y a pas de Dieu ou il n'y a pas de croyance possible à ce moment-là, tant l'horreur était présente. Et les gens qui ne doivent leur salut qu'à au fait de pouvoir s'accrocher à cette foi-là qui est indispensable. Et ça ramène la religion à cette croyance et aussi... au fait d'adoucir la vie, d'adoucir cette fin de vie pour des gens qui étaient dans des camps et qui étaient voués à une mort certaine.
Tout à fait. En fait, elle aussi, elle a effectivement cet effet de donner un sens à sa vie, de donner éventuellement un sens à ce sacrifice. On s'aperçoit aussi que quand on étudie dans les camps de concentration, les personnes qui ont survécu, en tout cas qui ont plus... peut-être eu la possibilité de survivre, on s'aperçoit qu'elles avaient des idéologies bien ancrées, que ce soit des idéologies athées, hein, comme les communistes, ou des idéologies de type chrétienne, confession juive aussi. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la possibilité de se projeter dans un environnement, dans un futur, dans une cohérence, malgré la souffrance, malgré le tragique, malgré la mort qui est à vos côtés, ça donne une force beaucoup plus importante. En tout cas, c'est ce qu'on ressentit ceux qui ont bien voulu témoigner sur cet aspect-là.
C'est une question philosophique, en fait. Parce que là, vous allez faire venir des théologiens, on le disait, des historiens. Mais au-delà de ça, c'est de la philosophie.
Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, puisque ça rassemble un certain nombre, finalement, de questionnements, de matières, de thématiques. Et je pense que dans notre idée, c'est effectivement d'ouvrir un peu l'histoire sur d'autres point. Et je pense que malheureusement, cette période, elle ouvre sur évidemment un certain nombre de questionnements. Et ces questionnements, vous le disiez vous-même, on ne peut peut-être pas forcément complètement y répondre, mais ils restent en tout cas toujours d'actualité dans le monde dans lequel on vit.
Le nazisme, est-ce que, alors on parle d'épuration ethnique, est-ce que c'est également une épuration religieuse plus que l'épuration d'un peuple? Donc on est là au cœur de votre sujet.
Tout à fait, c'est pour ça que nous avons invité le professeur Johann Chapoutot, professeur à la Sorbonne, qui a étudié justement cette éthique finalement nazie en disant elle a voulu effectivement faire table rase de cet universalisme, ce côté humanitaire qu'a pu apporter la religion juive et chrétienne, et dont s'étaient saisis les Allemands. Et donc cette démarche de Hitler, c'est une démarche tout à fait pensée, réfléchie, qui a une logique, effectivement, d'extraire un certain nombre des éléments apportés par les religions et de se positionner dans un autre courant.
La foi des bourreaux, c'est important également d'en parler. La pratique des religions du côté des nazis, là en l'occurrence on parle effectivement de la déportation et des nazis. Ça, vous avez des traces de rituels, des objets qui sont encore aujourd'hui visibles?
Alors on a des objets, en tout cas si vous parlez en tout cas des déportés, oui il y a des objets qui ont été réalisés. Dans les camps, on a des chapelets qui ont été faits, des dessins qui ont été réalisés, des poèmes, des prières. Donc il y a toutes une sorte d'éléments qui montrent que ça a pu s'extérioriser de façon très diverse et en fonction des personnalités. Et il y a cette question aussi que vous abordez, enfin, en tout cas je trouve très intéressante, qui est la question aussi du pardon. Il y a un témoignage, par exemple, d'un pasteur, Bonhoeffer pour ne pas le citer, qui dit « En fait, je réalisais aussi que ce nazi, ce SS, c'était aussi un homme. Et quelle peut être ma position vis-à-vis de cet homme, puisque, théoriquement, en tout cas, de par sa religion, c'est un frère ennemi ?» Mais comment aborde-t-on ces questions-là? Et c'est des questions très difficiles. Et évidemment, pour nous, nous n'avons pas, à juger. C'est juste à poser sur la table ces constats, ces expériences, et à faire peut-être notre philosophie sur la question. Mais je pense que c'est quand même très, très intéressant, ces différentes questions, des valeurs aussi, quelles sont les valeurs qui permettent cette pratique, parce que la religion, ce n'est pas simplement qu'une prière, ce sont des pratiques. Il y a à Dachau, par exemple, des questionnements sur le fait d'aller dans les revirs, dans les baraques où ont été placés les malades du typhus, encerclés, etc., mis en quarantaine. Est-ce qu'on doit aller aider ces personnes qui sont dans la souffrance et les aider même dans leur mort, ou est-ce qu'on doit rester à l'extérieur? Donc il y a des réponses aussi assez diverses. Et je sais que Jacques Sommer, par exemple, dans lequel on a un témoignage assez beau, dit ben, « si on n'est pas capable d'y aller, c'est que notre vision de la société, elle est ratée. » Mais ils y vont au risque de leur vie. Et certains n'en reviendront pas, des médecins ou justement des prêtres, puisqu'on était, on était à Dachau, y ont été. Mais c'est vrai qu'il y a eu des questionnements. Et ce questionnement, on le retrouve aussi, je pense, dans nos vies, quelles que soient nos croyances, ou qu'on n'en ait pas. Mais je veux dire, que doit-on faire pour l'autre? Jusqu'où doit-on aller?
Et la foi des bourreaux, comment est-ce qu'on peut imaginer des personnes qui pratiquent une religion et ne pas avoir trouvé une limite aux actes abominables qu'ils ont commis?
Mais je crois que c'est une question qui nécessitera d'ailleurs peut-être un autre colloque, parce que c'est tout à fait intéressant. On sait, d'abord, Hitler était catholique.
Et très pratiquant.
Et pratiquant, enfin, une culture en tout cas, pratiquante au départ. Et puis, on sait, et c'est intéressant aussi dans les travaux de Chapoutot et de Johann Chapoutot et d'autres historiens, que tous ces personnages-là, toutes ces personnes ont baigné dans une idéologie finalement qui, je pense, a dépassé complètement leur formation ou leur croyance chrétienne, et se sont imposés à eux comme une logique dans laquelle ils se sont complètement extraits. Mais je crois que c'est aussi un sujet qui est d'ailleurs assez peu abordé par les historiens, qui nécessiterait des recherches complémentaires. Et c'est pour ça qu'on a voulu effectivement introduire ces journées par une intervention de Johann Chapoutot pour nous remettre un peu dans un contexte des circonstances et idéologiques, puisque effectivement, dans un certain sens, les religions sont une idéologie, et y a un conflit, un combat entre les idéologies.
Et aujourd'hui, donc après, pour les survivants, est-ce que la foi reste un sujet toujours aussi clivant? Alors moi, je parle d'expérience personnelle dans le recueil de témoignages de survivants de la Shoah qui soit sont plus que jamais accrochés, on va dire, à, pas uniquement à la foi, mais aux religions et à toutes leurs... leur façon d'être pratiquée, ou alors pas du tout, ne me parlez plus jamais de religion.
Certains témoignages auxquels, enfin, de conférences où j'ai assisté, notamment effectivement par d'anciens déportés, disent globalement, passons à côté, quoi. C'est pas un sujet, et c'est souvent assez... Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, mais c'est une expérience évidemment toujours très particulière, c'était souvent assez catégorique. Alors, est-ce que c'est finalement, on veut sortir, on éloigne ce sujet-là parce qu'il est peut-être trop complexe, je ne sais pas, c'est chacun dans son intimité personnelle. Mais c'est clair que par rapport aux millions de personnes qui ont été tuées, qui sont passées par ces camps, etc., les témoignages sont finalement assez rares, quantitativement. Donc, c'est très, très difficile de tirer... et peut-être il ne faut pas d'ailleurs tirer des leçons de cela. Il faut, je crois, offrir à la réflexion, mais peut-être pas des conclusions trop hâtives sur des attitudes qui d'ailleurs peut-être ont pu changer. Quelqu'un qui aujourd'hui, un survivant qui vit encore aujourd'hui en 2023, a peut-être une attitude qui est très différente de celle qu'il avait en 1945-1946. Et c'est pour ça aussi que c'est assez passionnant, parce que finalement, on sort des choses toutes faites, des réponses toutes faites, et on rentre dans cette diversité des attitudes, dans cette diversité de l'homme, qu'il soit dans ces zones à la fois jamais blanches ni noires, mais souvent grises, comme le disait Primo Levi. Et je crois que c'est aussi ce qui fait l'intérêt de pouvoir aujourd'hui encore réfléchir là-dessus et de le proposer notamment à des élèves, parce qu'il y a toute une question sur justement les valeurs, la solidarité, le pardon, que l'on peut se poser aujourd'hui en étudiant et en réfléchissant sur les textes et les documents qui nous ont été laissés par les survivants.
C'était ma question justement, Guillaume Danglot. À qui s'adresse ce colloque ?
Alors, il s'adresse en premier lieu à un public curieux de ces questions-là, un public plutôt peut-être d'initié en termes d'histoire, plutôt initié en termes de religion et de connaissances sur cette religion, mais plus largement, et c'est pour ça que ces rencontres seront filmées, c'est aussi d'offrir une documentation, d'offrir des éléments pour qu'après, des professeurs puissent s'en servir dans le cadre de leur enseignement, quelles que soient les matières, puisque finalement on a parlé effectivement d'enseignement religieux, d'histoire, de philo, et je crois que ce sera intéressant d'avoir tous ces documents qui seront mis à disposition et que l'on pourra retrouver sur le site internet évidemment du Struthof.
Donc c'est comme le Centre européen du résistant déporté, c'est un colloque qui a vocation à aller vers les plus jeunes, vers les scolaires et les personnes qui n'ont peut-être pas accès à cette culture-là précisément.
Tout à fait, c'est pour ça qu'effectivement on mettra à disposition de personnes qui n'ont pas d'ailleurs physiquement d'abord le temps à consacrer en journée pour assister à ces rencontres et qui, à un moment ou l'autre, peut-être dans leur vie, se poseront des questions ou auront un intérêt pour ces sujets-là et pourront y trouver une certaine matière. Je crois que c'est important, effectivement, d'avoir plusieurs objectifs. Un objectif peut-être plus centré sur un certain nombre de sachants ou en tout cas qui ont une certaine connaissance sur ces sujets-là, mais plus largement d'aller vers l'extérieur, d'aller vers ceux qui n'ont pas accès à toute cette culture. Et ça fait partie de notre programme au CVRD, non seulement d'aller vers les plus jeunes et les scolaires, mais aussi d'aller vers des publics qui sont soit des publics handicapés, ou même on a signé une convention avec la direction interrégionale pénitentiaire pour aller vers des détenus ou des populations effectivement qui sont très éloignées de ces sujets-là et auxquelles il faut comprendre que ce qui s'est passé là et la possibilité de prendre connaissance de tout ça, c'est finalement une démarche de citoyenneté, c'est-à-dire que c'est un élément parmi d'autres évidemment, qui permet de comprendre à la fois notre histoire commune, à la fois ce qui s'est passé et ce qui reste permanent et donc la prévention et les réflexions que l'on doit avoir par rapport à tout ce qui pourrait réapparaître peut-être sous d'autres formes et sous d'autres modes puisque la civilisation a évolué mais qui reste très important et ce sont à la fois les jeunes mais aussi les adultes. Les adultes sont des éducateurs, ce ne sont pas que les professeurs qui ont cette mission-là.
Guillaume Danglot, cette émission se termine. J'invite évidemment nos auditeurs à se rendre sur le site du Centre européen du résistant déporté pour retrouver le programme complet de ces deux journées.
Tout à fait.
Donc c'est le 16 et le 17 mars, c'est au forum de la région Grand Est à Strasbourg. L'entrée est libre. Il y a également un concert des Voix étouffées qui aura lieu le jeudi 16 mars à l'église Saint-Pierre-le-Jeune pour assister donc au concert de musique classique. Ça promeut les artistes qui sont passés par les camps, qui ont été déportés, qui ont dû s'exiler, qui n'ont pas pu faire la carrière qu'ils auraient méritée.
Tout à fait, et ça pour donner aussi une autre tonalité à ces rencontres.
Des concerts gratuits, bien évidemment. Merci à vous d'être passé nous voir.
Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.